L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission quotidienne L'AJT du local. 30 minutes d'émission pour faire le tour de tout ce qui fait l'actualité en Mayenne, que ce soit dans le domaine culturel, social, économique, environnemental ou sportif. Le menu est large et justement aujourd'hui, on va parler de la collecte de mégots qui se poursuit à Château-Gontier. Vous pourrez leur offrir une deuxième vie. Un grand ouf de soulagement pour les embuscades à Cossé-le-Vivien. Le festival d'humour aura bien lieu à partir de samedi et ce jusqu'au 11 octobre. Et puis une nouvelle semaine en balade, cette fois-ci au refuge de l'Arche à Château-Gontier. Mais tout de suite, on fait un point sur l'actualité en Mayenne. Après les fortes pluies d'hier, fermeture de l'école de Marigné-Peuton. L'école privée de la commune du Sud Mayenne n'a pas ouvert ses portes ce lundi à cause des intempéries. La pluie s'est infiltrée dans les toits et le ruisseau a envahi la cour hier soir. Un service de garde et de cantine est mis en place par la commune voisine de Saint-Plé. La circulation du virus toujours plus active dans le département. La Mayenne n'est pas repassée en rouge, mais les derniers chiffres de l'ARS montrent une dégradation de la situation sanitaire. Le taux d'incidence s'établit à 40 contre 37 il y a quelques jours. Le taux de positivité, lui, reste constant à 3,1%. En revanche, bonne nouvelle, le nombre d'hospitalisations diminue avec 5 patients à l'hôpital et aucun en service de réanimation. Les journées du patrimoine ont trouvé donc leur public. On revient donc bien sûr sur ce flash de l'actualité, les journées du patrimoine qui ont trouvé leur public en respectant des consignes sanitaires strictes. Près de 3000 visiteurs se sont rendus sur les sites du conseil départemental de la Mayenne ce week-end. Pour les journées du patrimoine, ils étaient 1569 à franchir les portes du château de Sainte-Suzanne, 722 curieux au musée départemental Robert Tatin et 320 au musée archéologique départemental de Jublin. En sport, le Tour de France passera en Mayenne l'an prochain. C'est le président du conseil départemental Olivier Richoux qui l'a annoncé hier soir sur Twitter. Un retour en Mayenne attendu puisque le Tour de France ne s'est plus arrêté dans le département depuis 1999. La grande boucle devrait arriver en Mayenne le mardi 29 juin ou le mercredi 30 juin. On connaîtra le parcours officiel dans quelques semaines. Et du foot, en national, le stade Lavallois reçoit ce soir Nancy. En cas de victoire, les Lavallois retrouveront leur place de co-leader avec Bastia. Les Mayennais partent favoris. Laval-Nancy, c'est ce soir à 20h45 au stade Francis-Lebasserre. Et puis retour sur le troisième tour de la Coupe de France ce week-end. Sont qualifiés les clubs de Bonchamp, Changé, Château-Gontier, Mayenne et Le Bourgny. La journée citoyenne à Château-Gontier est annulée. Elle était prévue ce samedi 26 septembre, mais en raison de la situation sanitaire, la ville de Château-Gontier-sur-Mayenne annule son organisation. La journée citoyenne est déjà reprogrammée au printemps 2021, mais en parallèle, l'opération collecte des mégots de cigarettes se poursuit. Objectif, leur donner une seconde vie. Explication avec Patrice Houtin, l'adjoint chargé de la qualité des espaces publics.
J'invite plutôt tous nos concitoyens la semaine précédente, donc le 26 septembre, mais aussi les entreprises qui ont des points fumeurs, les lycées, enfin tous ceux qui auraient des mégots en stock, à venir les déposer devant l'hôtel de ville de Château-Gontier sur Mayenne, entre 9h30 et 12h30. Venir les déposer puisque la ville de Château-Gontier-sur-Mayenne a mis en place un système de recyclage avec la société Encova de Nantes qui vient nous récupérer tous les trimestres les mégots collectés dans nos différents espaces publics où on a posé des mégotiers, sachant qu'en 2019 on a récolté plus de 8 kilos de mégots et cette société après les recycle en plaques qui servent à faire du mobilier urbain et des petits objets. Au lieu de jeter les mégots, stockez-les et puis ramenez-les le 26 septembre. Ou alors, si vous avez des points fumeurs où il y a beaucoup de volume, ramenez-les. Mais je rappelle que l'objectif n'est pas de se mettre à fumer, surtout. Puis évitez de les jeter dans la nature, puisqu'un mégot, ça pollue énormément. Un seul mégot peut polluer 500 litres d'eau et puis met des dizaines d'années à se décomposer, avec plein de produits chimiques, donc très très mauvais pour la nature. Donc première chose, mettez-les au moins dans les cendriers et puis ramenez-les nous. Sachant qu'il existe à longueur d'année, à la déchetterie d'Azé, un point de collecte où vous pouvez les amener quand vous amenez vos déchets. Vous pouvez aussi amener vos mégots à part. Alors nous, nos agents de l'entretien de la voirie récoltent, vident ces mégotiers, les amènent au point de collecte à la déchetterie où ils sont regroupés. L'entreprise vient les chercher donc tous les trimestres en gros. Elle les récupère, les emmène dans son usine. Et là, alors ce qui les intéresse, ce n'est pas le mégot en tant que tel, c'est le filtre le filtre qui est plein de produits chimiques, de goudron. Donc ces filtres sont lavés de façon naturelle, il n'y a pas du tout d'utilisation de produits chimiques pour séparer les produits. Donc ils sont lavés plusieurs fois et ils récoltent cette fibre qui est après compressée et collée avec un liant. Et c'est avec ça qu'ils font des plaques et qu'ils construisent des mobiliers urbains et les petits objets, comme je vous le disais. Des petites boîtes ou des cendriers ou des petites poubelles de table, voilà.
La ville de Château-Gontier devrait bientôt acquérir quelques bancs fabriqués justement avec ces plaques en filtre de mégots recyclés. Et puis on quitte Château-Gontier pour aller à Cossé-le-Vivien, qui devient d'ailleurs Cossé-le-Ribien à partir de samedi. Le festival d'humour Les Embuscades est maintenu, on en parle avec sa présidente et son programmateur. Ce sera après Girls in Hawaii, on écoute Guinea Pig.
I wake up in a cave, you're by my side, I see the chandeliers gleam, a thousand lights. Picture on the wall of 96, you and I just smiling like monkeys. So go swimming to wake me up. I'm fighting with no shape, no conscience. Look across the room and see the girl. Looks like a Greek old-fashioned sculpture. Just wait outside, I'll be there. You gave me some advice, so I owe you now. It must be hard for you to lend me this golden skull. Infinite desert, you show me now. Where are the smiles and laughs again? Again, with you aside, I only see the black beauty mark on the back. Picture on the wall of 86, there's only me but much younger, straight on the pier. You gave me some advice, so I owe you now. It must be hard for you to lend me this golden skull. Infinite desert, you show me now. Where are the smiles and laughs again? You gave me some advice, so I owe you now. It must be hard for you to lend me this golden skull. Infinite desert, you show me now. Where are the smiles and laughs again?
Vous écoutez l'Agité du local sur l'autre radio. Et on parle aujourd'hui des embuscades. Les embuscades qui soufflent leurs 35 bougies. Le festival d'humour à Cossé-le-Vivien est bien maintenu malgré la situation sanitaire. Ouverture du festival ce samedi et il se poursuit jusqu'au 11 octobre avec au programme des seuls en scène, du théâtre burlesque, du clown. Mais ceux qui en parlent le mieux, c'est encore Catherine Charles, la présidente de l'association Festival de l'humour, et Jean Loury, le directeur artistique des embuscades. On imagine que la question de l'annulation, elle s'est posée jusque dans les derniers jours, Catherine Charles.
Alors oui, effectivement, pour nous, ça a été une grosse réflexion. Donc la décision a été prise fin juin de maintenir ce festival. Mais avant, ça a donné lieu à beaucoup de discussions, de questionnements. C'est une décision qui a été prise en CA. Donc on a vraiment pris le temps de la réflexion. Et donc, on a décidé quand même d'y aller, puisqu'on se disait qu'on aurait certainement besoin d'avoir un petit peu d'humour et de spectacle à la rentrée. Et donc, jusqu'à maintenant, on croise les doigts, mais on est très content d'être là. Et on est ravis de vous accueillir le 26 septembre.
Et donc, un festival d'humour, ça va faire du bien dans ce contexte pas très facile. Faire du bien au public, mais aussi faire du bien peut-être à vous-même, aux artistes, aux intermittents du spectacle, qui travaillent sur pas mal de spectacles qui ont été annulés, voire même reportés.
Oui, ben c'est, voilà, tout à fait. C'est un global. C'est vrai que pour nous, c'était important. Pour le public qu'on va recevoir, mais pour les artistes et les intermittents, c'est vrai qu'il y a des artistes et intermittents qui, comme vous le disiez, n'ont pas travaillé du tout depuis le mois de mars. Donc, ils sont aussi très, très... Ils ont très envie de venir. Et donc, ben, Jean pourra vous en reparler tout à l'heure, mais il a eu beaucoup, beaucoup d'appels de compagnies et d'artistes en disant « Bon, alors, vous programmez, vous faites, vous maintenez, vous... » C'était vraiment un gros questionnement. Et donc, on est... Ravi justement pour toutes ces raisons d'avoir maintenu et d'être là.
Justement, quels changements ont été apportés du fait des conditions sanitaires avec la Covid-19 pour qu'on puisse enfin profiter de ces spectacles ?
Alors, donc, quand on a décidé de faire donc, ce festival, au moment où on a pris la décision, il y avait un souci au niveau de la distanciation. En fait, les règles du jeu n'étaient pas tout à fait les mêmes. Et on se voyait très mal gérer les spectacles à l'extérieur, en fait. Notamment notre inauguration, pardon, qui a lieu dans le parc à Cossé-le-Vivien, et où on accueille beaucoup de monde, avec des enfants. Enfin, c'est vraiment familial, c'est une très très belle après-midi, qui malheureusement cette année n'aura pas lieu, justement du fait de la difficulté à gérer le public. Donc tous les spectacles en extérieur n'auront pas lieu. Les spectacles dits décentralisés, donc lorsqu'on se déplace dans les petites communes autour de Cossé, donc ça c'est pareil, ces spectacles auront lieu mais sont centralisés à Cossé-le-Vivien dans la salle du FCC. C'était vraiment pour ça, voilà, pour regrouper et puis parce qu'il fallait, il faut vraiment gérer le lieu autrement. Il y a une vraie gestion qui est complètement différente. Donc pour nous, c'était plus facile à organiser. Ouais.
Et la mesure un siège sur deux, est-ce que c'est maintenu ou pas ? C'est-à-dire un siège obligatoire entre deux personnes ou deux groupes de personnes ?
Alors lorsqu'on a pris la décision de faire le festival, oui, c'était une c'était une demande en fait. Il fallait vraiment respecter ça. Maintenant, il n'y a plus pour l'instant, la distanciation n'est plus demandée. Donc, il n'y aura pas de distanciation comme ça. Par contre, pour gérer quand même le public, puisqu'il y a toujours la gestion du flux, ce qui s'appelle le flux du public, on a décidé en fait de faire des jauges moindres. On a l'autorisation de remplir les salles à 100%, c'est-à-dire que là, sur la salle du FCC, on pouvait accueillir 648 personnes. Pour être sûr de bien gérer, d'être dans de bonnes conditions, que chacun soit dans de bonnes conditions, on est au maximum à 450 personnes. Comme ça, ça nous laisse une marge et on est sûr de gérer tranquillement en fait, toute la soirée, le public et sera dans de bonnes conditions.
Donc c'est vrai qu'il y a toutes ces contraintes sanitaires, on les connaît maintenant. Venir avec son masque, utiliser du gel hydroalcoolique, 1 mètre de distance. Mais malgré tout, il faut maintenir l'état d'esprit du festival, qui est un festival d'humour ici à la campagne, avec une proximité avec les artistes. Comment on jongle entre les deux ?
Alors justement, c'est ça qui est le plus compliqué, parce qu'on a quand même envie de faire des petites choses un peu... à côté, comme on fait habituellement, et c'est ce qui est notre marque de fabrique, on va dire. Donc, on va aussi trouver des petites astuces, mais bon, ce sera moindre par rapport à d'habitude, mais il y aura quand même quelques petites fantaisies, parce qu'effectivement, ça fait partie du festival, et que quand on vient au festival, on vient aussi pour ça, en fait. C'est notre identité, et nous, à l'intérieur de l'équipe, on a aussi envie que, justement, ça soit présent, puisque... C'est ce qui nous anime aussi.
Alors, on n'en dit pas plus, ce sont des surprises. Et si on regarde un peu plus en détail la programmation, quelles sont les nouveautés de cette édition, Jean Loury ?
Alors, en ce qui concerne la programmation des embuscades, effectivement, c'est la 35e. Hein, donc, on a effectivement un retour d'expérience important. Et l'idée, c'était de faire revenir pour cet anniversaire des compagnies qui nous avaient déjà marqués, et il y avait deux angles, c'est-à-dire on fait revenir des compagnies avec des spectacles qu'ils ont déjà programmés chez nous, et puis des spectacles aussi de création, c'est-à-dire qu'on a des artistes qui reviennent avec de nouveaux spectacles, ça c'est un des points importants, et puis aussi on est toujours tourné vers les jeunes compagnies, vers les artistes en développement. Et le principe quand même de la programmation, parce que ce serait facile en matière d'humour de faire venir quelques têtes d'affiche, on reste sur de la découverte. Des gens dont c'est le métier, ce sont des vrais artisans du monde du spectacle qui tournent pour certains dans le monde entier. On a BP Zoom par exemple, ils ont tourné sur tous les continents. Et puis on veut aussi une programmation très éclectique. Le principe c'est de monter pendant 15 jours toutes les facettes de l'humour au travers du théâtre musical, du clown, au travers des spectacles de rue qu'on intègre même dans la salle. On a des seuls en scène et c'est un festival qui se veut international puisqu'on a des gens qui pour cette année viennent d'Europe. Hein. On a des Portugais, on a des Espagnols, on a des Suisses, des Belges. On espère qu'ils seront tous en forme quand ils vont venir chez nous, bien évidemment. Et puis, l'idée aussi, c'est de multiplier dans une même soirée plusieurs spectacles. C'est très rare, quand on va au spectacle, on va voir un spectacle. Là, on va proposer, par exemple, pour l'ouverture, il y aura trois spectacles pour la même soirée, ce qui donne toujours des rendez-vous très forts, parce que ça permet au public, dans une même soirée, d'aller vers des couleurs de l'humour très différentes les unes des autres. Bien évidemment, comme le disait Catherine, les artistes attendaient avec impatience que ce festival ait lieu. On va y mettre toutes les conditions, et le fait de réduire les jauges, ça va permettre aussi une meilleure proximité. Donc un rapport même masqué entre les spectateurs et les artistes qui reste quand même et qui va être sûrement quand même très très chaleureux. Donc voilà, alors la programmation c'est effectivement nos spectacles décentralisés relocalisés dans la salle du FTC, mais c'est aussi la vitrine que sont les Nuits de l'Humour, hein, c'est ce qui est en général assez couru. C'est aussi des projets, alors les Nuits de l'Humour qui termineront le festival les 9 et 10 octobre, il y aura aussi une soirée surprise le 11 octobre, mais c'est le démontage, alors si les gens veulent venir, ils sont les bienvenus. Mais ces soirées de l'humour, c'est trois spectacles avec Jimmy V. Chez nous, il est venu très souvent, il est très attendu aussi. Et puis, la Compagnie des Épis Noirs, qu'on a accueilli plusieurs fois, qui viennent avec un tout nouveau spectacle, qui nous donneront une leçon d'histoire. Ils vont, en une heure et demie, rebalayer toute l'histoire de France à la sauce en épis noirs, donc très, très burlesque et très musicale, très théâtralisée aussi. Et puis, on propose aussi des spectacles particuliers. Exemple, il y a 5 ans, on s'est dit, pourquoi le public ne vient pas sans savoir ce qu'ils vont voir. Ben, ça a été osé la première fois, on s'est dit, allez, on va déjà remplir avec des bénévoles, puis on va voir ce qu'on peut faire. Et en fait, ça a fonctionné, donc ça fait 5 ans que ça dure, et le jeudi 8 octobre, spectacle surprise, les gens ne savent pas, et même les bénévoles ne savent pas qui est programmé. C'est toujours très agréable d'embarquer des gens dans des histoires comme ça, totalement méconnues. L'autre point particulier, c'est qu'on fait des spectacles à des horaires type petit déjeuner, ce sera plutôt un apéro philo-forain, avec un personnage totalement atypique, étonnant, qui est un vrai prof de philo, qui a enseigné la philo en collège, lycée et fac pendant une 20aine d'années, et qui a vulgariser, populariser la philosophie, en essayant de faire un grand écart entre Aristote, Nietzsche et Coluche, par exemple, tout ça teinté de tonton flingueur, avec des références philosophiques réelles. C'est quelqu'un qui a vraiment une culture exceptionnelle, et ça donne un spectacle totalement décalé. On l'a accueilli il y a 2 ans, avec un thème, ce qui était, puisqu'on choisit le thème, c'était il y a 2 ans, est-ce qu'il faut tuer les vieux à la naissance ? Donc le débat a été très chaud, effectivement, et très chaleureux. Et cette année, ce sera le thème « La fin du monde, poubelle verte ou poubelle jaune ?» Donc voilà un petit peu, vous voyez, avec des artistes effectivement très surprenants. Je pense qu'on va avoir aussi une soirée totalement belge, les 2 et 3 octobre, présentée par un comédien et un animateur de télé qui a été une référence sur la RTBF, notamment en Belgique. C'est lui qui va faire les présentations. Ce sera ensuite suivi de Jet Lag. C'est un spectacle qui se passe dans un aéroport où un personnage passager cherche des relations émotionnelles, intimes et chaleureuses dans cet aéroport. On sait que c'est pas toujours très simple et qui plus est en ce moment. Et on va le voir se promener dans tout l'univers de l'aéroport. Ça se terminera d'ailleurs dans la cabine du pilote qu'on aura sur scène. Ça s'appelle Jet Lag et ce sera suivi de quelqu'un qui a été un coup de cœur l'année dernière, qu'on fait revenir, Manon Lepomme, qui est en plein développement. Voilà, donc vous voyez, la palette est très large. On aura aussi Maria Dolores, qui est une cantatrice passionnée de tango qui nous vient d'Espagne avec son quatuor musical qui sera là le 29. Donc vous voyez, des couleurs très différentes les unes des autres. Et puis, Jean-Jacques Vanier, connu de la radio puisqu'il a été chroniqueur sur France Inter pendant une dizaine d'années, il revient avec un nouveau spectacle, Colère, qui sera la première partie du théâtre burlesque le mercredi 7 octobre. Et ce sera suivi de BP Zoom. BP Zoom, ce sont des clowns, on a souvent dans le cadre de la programmation, des clowns qui ont tourné dans le monde entier, qui reviennent chez nous après 14 ans ou 15 ans d'absence. On est très heureux de les revoir. Donc vous voyez, des rendez-vous vraiment très forts. Et donc on invite bien évidemment le public. Dans la distanciation, avec le port du masque, avec le respect de toutes les règles, à venir nous voir, puisqu'il y a encore des places, bien sûr, sur Festival.
La billetterie est disponible sur le site internet des Embuscades. C'est une nouveauté de cette édition. Et sinon, vous pouvez aussi réserver par téléphone au 02 43 91 79 63 ou vous rendre à la permanence à la maison de la communauté de communes à Cossé-le-Vivien. On le rappelle, le 35e festival des Embuscades commence ce samedi 26 septembre et aura lieu jusqu'au 11 octobre. The Black Keys, Low High. Vous écoutez bien l'agité du local sur l'autre radio. Retour de notre feuilleton hebdomadaire. Après les coulisses du cabaret d'Azé, nous nous intéressons au fameux refuge de l'Arche à Château-Gontier qui accueille et soigne les animaux sauvages en captivité. Retour sur l'historique du refuge, 45 ans en arrière, avec son actuel directeur Yann Ujdi.
Eh bien, effectivement, il y a 45 ans, mes parents, Christian et Daniel Hugedé, ont eu l'idée un petit peu folle de créer un refuge pour animaux sauvages. C'était un petit peu fou puisque ça n'existait pas, tout simplement. Et la première vocation du refuge a été l'accueil d'animaux issus de la faune locale. Donc, il s'agissait d'animaux trouvés blessés, en perdition d'une manière générale. Et puis mon père, qui très tôt était déjà dans ces années-là en contact de Jacques Bouillot, qui a fondé, lui, en son temps, le parc zoologique du Tertre Rouge, dit aujourd'hui Zoo de la Flèche actuellement. Jacques, dans ses activités de parc zoologique, était énormément sollicité pour accueillir des animaux sauvages, toujours, plutôt exotiques et détenus en captivité, et beaucoup d'entre eux chez des particuliers. C'était complètement fou, là aussi, cette situation, dans le sens où, chez les particuliers dans ces années-là, on pouvait trouver assez facilement des lions, des singes, y compris parmi les singes, des anthropoïdes. C'est Jacques qui avait proposé à mon père, en lui disant, tu sais, ton histoire de refuge pour la faune locale, c'est une très bonne idée, parce qu'effectivement, ça n'existe pas. Mais sache qu'il y a un besoin énorme aussi pour ces animaux en provenance de la captivité. Et moi, je ne peux plus en accueillir. J'en ai beaucoup accueilli sur mon zoo, mais je n'ai plus de place. Et si tu voulais étendre aussi à ton refuge l'accueil de ces animaux-là, ce serait, là pour le coup, une réponse à un besoin qui lui aussi devient vraiment, vraiment très important. Et c'est comme ça que très vite, finalement, 2 ans après la création du refuge, nous avons accueilli notre premier lion, King, qui a vécu toute sa vie au refuge. Une femelle chimpanzé, un premier ours aussi, Tsavo, c'était un récupéré, enfin acheté bébé d'ailleurs, par son ancienne propriétaire. Donc ça, c'est. Et puis le refuge est agrandi. Il s'est longtemps étendu sur 1 hectare. Et puis en 87, le district de Château-Gontier à l'époque avait accepté de nous proposer et nous assurer l'agrandissement du refuge en nous mettant à disposition 10 hectares. Donc là, nous étions donc fin des années 80. Et pendant toutes les années 90, pendant cette décennie-là, l'association a énormément investi pour aménager justement ces nouveaux terrains. Et le refuge a connu vraiment un premier virage important dans les années 90. Donc il y a eu beaucoup d'animaux pris en charge sur l'établissement, qui finalement, avec le temps, s'est surtout recentré sur l'accueil d'animaux en provenance de la captivité, qu'il s'agissait toujours, bien entendu, d'animaux issus de particuliers, mais ça pouvait être aussi des animaux issus de saisies par les services de l'État. Ça a été aussi des animaux qu'il a fallu récupérer à l'occasion de fermeture d'établissement. Ou en provenance de laboratoires de recherche scientifique.
Depuis son arrivée en 2008, Yann Hugedé a souhaité professionnaliser les équipes, ce qui est quasiment le cas à 100% aujourd'hui. Demain, on s'intéressera aux missions de la vétérinaire Sarah Ouar. Mais dès aujourd'hui, coup d'œil sur l'agenda, sur les événements prévus cette semaine en Mayenne, avec une soirée La Terre au cinéma. Ce sera demain mardi à Château-Gontier, avec la projection du film Dialogue avec mon jardinier de Jean Becker, adapté du roman d'Henri Cueco. Rendez-vous donc demain mardi à 20h30 au cinéma Le Palace. Le film sera suivi d'un échange avec Antoine Glémin sur la représentation de la terre et du paysan au cinéma en général et dans l'œuvre de Cueco. Une autre rencontre ciné, cette fois-ci à Bourgneuf-la-Forêt. La Maison de l'Europe en Mayenne organise un ciné-débat sur le thème des droits des femmes en Europe. Il a lieu ce mercredi à 19h au cinéma Le Trianon. En première partie de soirée sera projeté Dieu existe, son nom est Pritfounia, de Théona Struger-Mitev-Skadou, désolé pour la prononciation. Ce film nord-macédonien est lauréat du prix Lux 2019 et ensuite l'association Femmes Solidaires 53 animera un débat autour des thématiques soulevées par le film. Et puis, autre animation à l'agenda, dans le cadre de la Semaine du Développement Durable, de nombreuses animations ont lieu à Laval et dans son agglomération. Ce mercredi, par exemple, est programmée une visite du centre de tri. Rendez-vous à 8h30 à la Maison de Pays à Loiron-Ruillé. Vous suivrez les traces des déchets du centre de tri jusqu'au réseau de chaleur. La visite est gratuite, mais il faut s'inscrire par téléphone au 02 53 74 11 50 ou par mail à environnement@laglo-laval.fr. L'AJT du local, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pourrez ouvrir vos horizons musicaux grâce à Solénoïde un peu plus tard et découvrir la discothèque de Renaud. Ce sera à 20h sur nos ondes. Et puis à 13h, ce sera Regard d'ailleurs. On part direction Bali, une île aux multiples facettes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous ici sur l'autre radio dès demain à 12h15. Bon après-midi.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est l'AJT du local.